Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Alors aujourd'hui, on baisse les lumières, on allume les bougies, petite ambiance d'amusée, musique, c'est un duo. C'est moi et l'un de nos chroniqueurs, podcasteurs, hein, l'un de nos habitués. Alors son cœur balance entre le jaune et vert et le blanc et bleu, vous l'aurez compris, entre Nantes et Strasbourg. Alexis, comment tu vas ?
Oh Desti, quelle introduction, je te remercie. Merci beaucoup de cette introduction, je suis très content d'être là encore avec toi. Je suis très content d'être avec vous tous, les auditeurs, nos chers auditeurs. Et attention à dire que mon cœur penche entre Nantes et Strasbourg. À force de dire ça, tu vas vouloir faire une moyenne et me situer à Paris. Et ça,
je ne pourrais
pas accepter.
On accepte tout le monde. Les supporters parisiens, on accepte tout le monde. On est ouverts. Hein. Nos portes sont grandes ouvertes. Ne t'inquiète pas. Il y a de la place pour tout le monde. Et qui sait, si l'année prochaine, tes équipes descendent, va falloir trouver un moyen de te garder sur le podcast. On parle de Ligue 1, pas de Ligue 2.
On parlera du meilleur championnat d'Europe, de la galaxie, la Ligue 2 Dominos. Avec le Paris FC.
Ah, le beau Paris FC. Et le Red Star aussi, peut-être, le Red Star. Très bien. Bah, content de t'avoir avec moi aujourd'hui, Alexis. Alors, on a décidé de se concentrer sur deux matchs. Alors, on aurait pu, comme d'habitude, en choisir d'autres. Hein, dans cette fin de championnat, il reste maintenant 8 journées, si je me trompe pas, 8 ou 7 journées, puisque c'est la 28e journée. 7 journées, voilà. Et donc, on a fait notre choix. Ce soir, on va parler de deux matchs qui sont aussi très importants. C'est les matchs du dimanche soir. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, on parlera de Monaco-Rennes et du FC Nantes face à l'Olympique Lyonnais. On va commencer tout de suite par le premier match, Monaco-Rennes. Alors, Monaco-Rennes, pour vous, comme d'habitude, vous remettre un peu dans le contexte. Hein. Monaco-Rennes, c'était en décembre, le match aller, décembre 2023, donc Monaco s'était imposé 2-1 face à Rennes. Donc Rennes qui était certes dans une très belle remontée, mais qui est tombé face à cet ogre monégasque qui généralement se déplace plutôt bien. Au niveau du championnat, on a deux équipes qui ont certes des intérêts, mais des intérêts qui sont différents, on va dire, parce que Monaco a gagné le week-end dernier face à Metz 5-2, si je me trompe pas, et qui est actuellement troisième du championnat avec 49 points, donc un point derrière Brest et 3 points devant Lille. Et de son côté, Rennes est huitième avec 39 points, donc Rennes a autant de points que Marseille et Reims, mais Rennes s'était incliné face à Strasbourg 2-0, hein, un Rennes assez amorphe, on a envie de dire, et on va dire que ces derniers temps, bah, les choses ne sont pas forcément tout roses du côté de la Bretagne, parce qu'ils sont aussi inclinés face au PSG en Coupe de France, donc pas de finale pour nos amis, pas de finale de Coupe de France pour nos amis de Rennes, mais toujours, voilà, cette septième place à aller chercher, au cas où le PSG gagnerait cette finale de Coupe de France, il y aurait cette septième place qui serait qualificative pour une place européenne. Alors, on va commencer tout de suite et se mettre dans le bain en parlant de l'équipe qui reçoit. Alexis, Monaco est actuellement, on peut le dire, dans son sprint final. On sait que Monaco a pour habitude d'être un très bon finisseur, généralement. Donc, Là, on s'attend vraiment à des matchs assez intéressants, hein, puisque Monaco qui a quand même enchaîné un match nul face à Lorient, ou une petite victoire face à Strasbourg, petit match nul face au PSG, une victoire 2-3 face à Lens. Voilà, Monaco qui est sur une très bonne dynamique. Moi, tout de suite, ma première question que j'ai envie de te poser au niveau de cette équipe monégasque. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi qui était intéressant côté monégasque, c'est est-ce qu'on peut considérer que les jeunes de Monaco, Akliouche qui a marqué encore, ou encore Ben Seghir qui a marqué il y a 2 journées, est-ce que les jeunes prennent le pouvoir à Monaco et est-ce que c'est ce qui va permettre à Monaco de faire la différence sur cette fin de saison?
Alors, c'est intéressant que tu parles de ça, justement, parce que Monaco, je pense, dans la tête de tous les supporters de Ligue 1depuis l'arrivée des actionnaires russes, on a cette image de Monaco qui veut flamber, un peu comme Paris l'a fait au tout début de l'ère qatari, à acheter des grands joueurs, à développer des grands joueurs et ensuite les vendre à des sommes astronomiques. Donc, on a connu Falcao, James Rodriguez. Tous ces joueurs de cette période-là. Et justement, depuis un an et demi, peut-être 2 ans max, j'ai l'impression, oui, qu'ils ont changé complètement de projet sportif ou de projet de club en général, qui est beaucoup plus axé sur les jeunes, faire jouer les jeunes, acheter beaucoup moins de joueurs avec une idée de les revendre derrière pour se faire de l'oseille. Mais oui, de créer une équipe qui joue bien entre elles, une équipe, on va dire, logique sur le papier, avec des atouts, des faiblesses qui sont corrigées par d'autres atouts d'autres joueurs, etc. Et moi, ça me fait plaisir, justement, que chaque semaine, Hütter mette voilà, des joueurs comme Akiouche sur la feuille de match en tant que titulaire. Parce que oui, j'ai l'impression que c'est une ère de la jeunesse à Monaco. Et ils font du bon travail, justement. Il faut leur donner ça. C'est qu'ils font beaucoup mieux, je pense, que leurs prédécesseurs il y a 2 ans, qui étaient des joueurs un peu plus expérimentés peut-être, mais voilà, qui peut-être étaient un peu moins sérieux sur le long terme. On l'a vu déjà d'ailleurs il y a 1 mois, je crois, pour la dernière défaite de Monaco, c'était contre Toulouse, où Kohn avait fait une erreur bête sur un coup franc, il me semble.
C'est bien ça.
Le but, voilà, c'était sur
Si
le
je me
but
trompe
de
pas aussi, ouais,
le
c'était
premier
Toulouse.
but de Toulouse. Et d'ailleurs, depuis, on l'a plus revu. Et depuis, c'est Majewski qui enchaîne les matchs depuis. Lui qui n'avait jamais joué pour Monaco avant, qui est titulaire. Et qui fait le travail. Bon, certes, c'est pas un jeune. Il a 24 ans comparé aux 26 de Kohn. Mais c'est pour donner l'idée. Oui, c'est tous ces joueurs expérimentés de la Ligue 1 ou d'autres championnats comme la Bundesliga, etc., qui commencent à perdre leur place face aux jeunes ou aux plus petits joueurs, on va dire, si je puis dire ça comme ça.
Ouais, parce que au final, Akliouche, il a quand même enchaîné 2 titularisations de suite. Alors Ben Seghir qui a été blessé quand même une grosse partie de la saison, il est revenu petit à petit. Alors il était surtout remplaçant, mais on a vu qu'il a commencé notamment le dernier match face à Metz. Donc et surtout, ils apportent cette vitalité, cette énergie que certaines personnes pouvaient manquer, comme on le voit par exemple un Ben Yedder qui n'était pas forcément très en vue face à ce FC Metz, et bah derrière les jeunes reprennent le dessus et puis ils vont aussi, on va dire, pousser les plus anciens comme un Golovin ou un Minamino. Golovin qui a fait une très belle passe décisive notamment pour Vanderson, hein, donc même voilà des joueurs comme Vanderson. Donc on a vraiment l'impression qu'à Monaco on a voilà, ces jeunes joueurs qui commencent. Enfin, si tu partages mon avis, je suis content, hein. Je pensais que c'était que dans mon imaginaire. Mais ça fait
Ah
plaisir à
oui,
voir,
c'est
ouais.
ça, oui. Et surtout, en fait, j'ai l'impression que Hütter demande à responsabiliser tous ses joueurs qu'il met sur le terrain. Donc, tu fais une erreur, tu en payes les conséquences, tu fais des bons matchs, tu joues, et tu es titulaire, même si tu as 19 ans, tu es titulaire et tu gardes ta place et ça marche. Et justement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière ensemble, enfin en off, hein, pendant qu'on regardait Metz-Monaco, c'est que Monaco a rapidement gagné 3-0, mais que Ben Yedder n'avait pas touché de ballon encore. Alors que tous les jeunes s'amusaient à faire des passes magnifiques, des frappes, et je trouve ça super intéressant, oui.
Et du coup, moi, il y a un autre aussi aspect de cette AS Monaco que je voulais traiter avec toi. C'est l'aspect défensif. Alors, tu l'as noté et c'est hyper intéressant, c'est que depuis la 22e journée du championnat, donc depuis Toulouse et la dernière défaite monégasque, et bah, changement de gardien, Maïski. Et depuis, bah, c'est 6 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Est-ce que aussi cette défense, bon, et on le voit aussi à certains joueurs défensifs, notamment qui ont été replacés, hein. Notamment, hein, je parle par exemple, bon, après le pauvre Singo, il me semble qu'il met un but contre son camp. C'était quel match? Il y a pas longtemps, il met un but contre son camp. Mais voilà. Est-ce que cette défense, avec notamment ce Kerrer qu'on a pu critiquer, et moi le premier hein, pour l'avoir connu au PSG, est-ce que si ce Kerrer apporte aussi un peu plus de sérénité, de sûreté à cette défense monégasque? Oui, la dernière journée, on a vu Singo qui a remplacé Maripane dans l'axe, puisque Salisu n'était pas encore apte. Est-ce que toi, cette défense, voilà, tu la trouves aussi prête à affronter déjà ce match face à Rennes et surtout à affronter ce dernier sprint de fin de saison?
Alors, moi, je vais être honnête, en vrai, cette défense ne me faisait pas rêver en début de saison. Je comprenais pas pourquoi ils étaient allés chercher Salisu de Southampton, il me semble. Et Kerrer, c'était un beau pari. J'étais pas vraiment très convaincu au tout début de la faisabilité du pari ou du fait que ce soit une bonne idée, mais finalement, ça marche. J'ai pas envie de dire que c'est une défense très solide parce que comme tu le soulignais ils ont pris voilà 6 buts sur les 5 derniers matchs mais bon 2 buts par match contre des équipes qui ne devraient pas avoir l'occasion de marquer contre Monaco si je puis dire ça comme ça parce que Monaco ils doivent pouvoir garder une clean sheet contre Metz, Lorient, bon, Strasbourg ils l'ont fait après contre Paris pardon contre Paris ils avaient bien
Ouais, ils
défendu tout le
font
match
0-0, ouais.
ouais donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression que contre les grosses équipes ou sur les gros matchs ils arrivent à bien défendre mais dès que leur attaque est un peu trop simple ou sont un peu trop simple à placer dès que c'est un peu trop simple en attaque derrière ça se relâche un peu trop et puis ils se prennent trop de buts bêtes ou des buts d'inattention. Même on l'a vu la semaine dernière contre Metz, ils sont pris deux buts qui franchement on le sent qu'ils sont pas forcément là à défendre. Ils savent qu'ils gagnent déjà 3-0, ils ont un but, c'est pas grave. Oh bon, on s'est pris un deuxième but, bon c'est pas grave. On va quand même marquer deux buts de plus, mais bon, voilà quoi. Voilà, donc c'est une défense qui contre les grosses équipes. Ça, vu leur fin de saison et leur objectif de Ligue des Champions l'année prochaine, je ne sais pas si ça va être suffisant pour, voilà, pour accomplir cet objectif-là. Mais on verra, je leur souhaite tout le bonheur, bien sûr.
Ouais. Toujours, toujours. Et surtout, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts en deuxième mi-temps, hein. On le voit à chaque fois, là, si on reprend les derniers matchs. Les derniers matchs de Monaco, donc contre Toulouse, le deuxième but, c'est en deuxième mi-temps. Contre Lens, les deux buts qu'ils prennent, si je me trompe pas, c'est en deuxième mi-temps. Ah non, ils prennent le 2-2, pardon. Ils prennent le but du 2-2 en deuxième mi-temps, et puis après Minamino qui met cette superbe frappe pour la victoire. Lorient, c'est un but à la 90e minute de Bakayoko. Metz, les deux buts sont encore en deuxième mi-temps. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui prend quand même beaucoup de buts en deuxième mi-temps, et c'est peut-être aussi l'un de leurs défauts, hein, c'est qu'ils ont du mal à avoir cette solidité. Sur tout le match, il y a un moment où ils vont fatiguer, hein. Et ça peut être aussi le petit risque. D'ailleurs, je voulais te donner une petite statistique. La dernière fois, parce que Monaco est connu quand même pour être assez mauvais à domicile, ils ont beaucoup de mal à jouer à domicile, hein. Aujourd'hui, c'est quand même pour une équipe, hein, qui joue la deuxième place, c'est 6 victoires, 3 nuls et 4 défaites, le double des défaites à l'extérieur. Et Monaco, la dernière fois qu'ils ont gagné à domicile, c'était début décembre face à Montpellier. Ça fait un petit moment, quand même.
C'est vrai que ça date, ouais.
Ah, ça fait un petit moment. Hein.
Il va falloir s'y remettre.
Bah ouais, bah surtout ouais, s'ils veulent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine.
C'est vrai qu'on s'attarde sur le fait qu'ils sont invaincus depuis longtemps, à part cette défaite contre Toulouse. Parce que même avant ça, ils n'avaient pas perdu depuis Reims, il me semble, mi-janvier. Mm-hmm. Après, il y a eu la Coupe de France aussi, où ils sont éliminés. Bon, ça c'était au pénalty, il me semble. Mais oui, c'est vrai que en fait à domicile ils font match nul et à l'extérieur ils gagnent depuis quelques temps. Et je pense pas que ce soit suffisant oui, pour arracher cette deuxième place à Brest ou la garder en tout cas.
Ah, c'est assez faible. Bah, pour te donner Monaco à domicile, ils sont classés sur les 8 dernières journées, ils sont 12e. Ah, c'est 2 victoires, 3 défaites et 3 nuls. Donc ouais, c'est pas top. C'est pas top du tout. Ok. Bah, du coup, ça va pouvoir nous faire passer à l'équipe suivante et à l'équipe qui va les affronter. Donc, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Monaco.
Ouais, je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à cette défense encore. C'était qu'en fait, malgré le nombre de buts qu'ils encaissent dans le jeu, je les ai pas vus douter tant que ça. Voilà, contre Metz, par exemple, ils ont encaissé des buts. Même contre Lorient, ils en ont encaissé, mais je les voyais pas stressés ou paniqués ou douter de leur jeu, en tout cas. Donc, j'attends de voir contre une plus grosse équipe, contre Rennes, par exemple, parce que prendre un but de Rennes, c'est quand même pas pareil que prendre un but de Lorient ou Metz ou Strasbourg. Donc, voir comment réagissent si Rennes marque en premier.
Ouais, et puis surtout que c'est une équipe qui a quand même du mal à réagir, surtout à domicile. Je crois que quand ils prennent le premier but, c'est 3 défaites et 1 nul. Quand ils prennent le premier but et le nul, c'était contre Lorient. Donc,
et surtout que là, ils enchaînent Rennes, Brest, Lille, Lyon.
Ouais, gros calendrier.
Gros calendrier où il faudra pas prendre de but.
Ouais, gros calendrier, ouais. Et du coup, bah, en parlant de calendrier, ça nous permet de switcher sur notre équipe rennaise, hein. Donc, on l'a rappelé, hein, Rennes qui a perdu le week-end dernier face à Strasbourg 2-0, qui a perdu en Coupe de France face au PSG. Donc, Rennes qui enchaîne aussi un très gros calendrier. Donc, ça va être Monaco. Ils vont jouer quand même contre Toulouse, qui doit valider son maintien. Il y a Nantes qui doit aller chercher son maintien. Et puis, il y a Brest derrière qui, Brest l'a clairement dit qu'elle arrive au bout de ce championnat, elle a des ambitions, elle veut valider sa bonne saison. Il y a Metz qui sera sans doute un match plus simple, mais ils finissent quand même avec Lens et Reims qui sont des concurrents directs pour cette septième place, pardon. Cette équipe rennaise n'est-elle pas à bout de souffle? Alors, je m'explique. C'est quand même une équipe qui part de très loin, qui a eu un début de saison qui était très compliqué. Qui a eu un très gros creux, on va dire, pendant un moment autour de la mi-saison, hein, qui est tombé bien bas dans le championnat, qui a changé d'entraîneur, qui a quand même joué une coupe européenne qui demande beaucoup d'énergie. Et puis il faut ce mental aussi pour se remettre dans le bain, pour aller chercher une bonne position, parce que quand même Rennes a l'équipe et un budget pour viser au moins normalement les 5 premières places du championnat. Moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle a tout donné et là, j'ai l'impression qu'elle est fatiguée. Est-ce que tu partages mon avis ou c'est moi, je m'inquiète pour rien, ils ont juste eu une petite mauvaise passe et ça va vite revenir, ils vont revenir dans le bain.
Alors, en tant que mauvaise passe, en soi, c'est ils ont juste perdu contre Strasbourg la semaine dernière. Après, ils ont fait un gros match contre Marseille, ils ont fait un nul contre Lille, et après, petite défaite contre Lorient aussi. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de mauvaise passe, mais je suis plus ou moins d'accord avec toi quand même. Il y a une certaine fatigue parce que, et ça, on l'a vu depuis, on le voit depuis très longtemps d'ailleurs en Ligue 1, et c'est surprenant que ce soit chaque année la même chose. Chaque nouveau club qui joue l'Europe, la saison d'après, c'est pas qu'il dégringole dans le classement en Ligue 1, mais voilà, en général, les équipes françaises ne savent pas jouer sur deux, trois tableaux en même temps, à part Paris, bien sûr. Parce qu'eux, ils ont un peu plus que l'effectif. Mais Rennes, oui, ils ont fait un gros parcours en Europe. Ils ont fait un gros parcours en Coupe de France aussi. La Ligue 1, certes, il y a deux journées de moins cette année, mais elle est quand même longue. Donc, c'est vrai que ça commence à devenir dur, je pense. Surtout qu'ils entament leur dernière course après avoir fait donc là trois matchs en 7 jours, dont 2 à l'extérieur cette semaine. Donc oui, c'est même si la fatigue n'est pas mentale, elle est déjà physique, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas une profondeur de banc extraordinaire. Voilà. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans l'équipe, techniquement, il n'y en a aucun qui peut prétendre à une équipe, à une place dans une équipe nationale pour l'Euro. Donc, ils savent que leur saison peuvent se terminer rapidement là. Donc, ils vont peut-être vouloir se donner à fond, se mettre un dernier coup de boost pour terminer cette saison-là et mieux commencer la saison prochaine avec, espérons-le, une coupe européenne, enfin une qualification en coupe européenne. Ou peut-être même, si je puis pousser mon argument un peu plus loin, tout donner pour prétendre à une place inespérée en équipe de France. Je pense au Kalimuendo, par exemple. Qui
pour les JO, certains, peut-être.
Pour les JO aussi, peut-être, oui. Qui, selon après, certains, pourrait prétendre à une place. Ou alors Blas, par exemple, qui n'est pas mauvais non plus. Peut-être pas assez bon pour l'équipe de France A, mais pour les JO, par exemple, oui. Ou alors les petits jeunes en défense... Truffert, par exemple, qui avait commencé à jouer en équipe de France il y a quelques mois ou un an, qui n'est pas mauvais non plus. Donc voilà, à voir. Ça peut être une bonne motivation aussi pour tout terminer en beauté.
Après, on a vu que Florian Maurice n'était pas forcément fan pour envoyer les joueurs au JO. Mais oui, c'est vrai que... Voilà.
Bon.
Ouais, c'est ça. Personne ne veut envoyer ses joueurs au JO. Je peux les comprendre, hein. Je peux tout à fait les comprendre, mais c'est vrai que ouais. Et puis en plus, cette équipe rennaise, elle est remplie de paradoxes, cette équipe rennaise, parce que certes, c'est vrai qu'elle a eu un début de saison qui a été assez complexe, mais voilà, aujourd'hui on va avoir une équipe rennaise qui ne se déplace pas forcément bien. Aujourd'hui, Rennes en Ligue 1, c'est 3 victoires, 6 nuls et 4 défaites à l'extérieur, face à une équipe monégasque qui n'est pas forcément très qui a quand même plus de victoires à domicile, mais qui n'est pas connu pour être une bonne équipe à domicile. En même temps, Rennes était sur 2 défaites en 2024, donc Lorient et Strasbourg, qui est quand même un bon bilan par rapport à leur année 2023. Mais au-delà de ça, quand on les regarde jouer, voilà, j'insiste là-dessus, c'est que moi, je trouve que c'est une équipe qui est... c'est une équipe qui est limitée. C'est une équipe qui est limitée, alors...
Après, je te coupe rapidement, mais je te suis là-dessus aussi sur le fait qu'on a l'impression que c'est un foot un peu fatigué. Mes recherches philosophiques, on va dire, dans mes pensées.
Grande étude.
Voilà, devant un Ligue 1 le week-end.
Et tu vas nous donner l'heure et la date de ta conférence, de ta lecture.
Non, pas encore. je vous dirai quand je serai en live dans une grande salle de conférence sur le foot à Genève. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces équipes comme Rennes, Lyon et Marseille, je trouve que cette saison, elle, les trois se ressemblent énormément, où c'est en fait trois projets, trois clubs qui ont eu des projets depuis quelques années déjà. En fait, c'est des vieux projets qui ont été créés il y a quelques années et qui ne font pas face à l'innovation du nouveau foot, de la nouvelle Ligue 1, si je puis dire, avec les Lens, Lille, Nice, ces équipes qui proposent un jeu complètement, je sais pas, oui, ravivé ou alors jeune, je ne sais pas comment expliquer ça exactement, mais oui, c'est l'impression que voilà, que j'avais un peu aussi. Je sais
Oui, et
pas si
puis
tu me suis
après,
là-dessus.
bah, il y a quand même des coachs qui sont déjà un peu plus frais, des coachs qui sont plus nouveaux. Il y avait aussi une certaine stabilité qui est mise en place. Et puis, Lens, on n'en parle pas trop, mais Lens, quand ils avaient leur board avec Gisolfi notamment, ça se passait très bien. Là, on voit qu'il y a du changement en interne, bah, ça se passe moins bien sur le terrain. Mais dès que tout de suite, et je suis d'accord avec toi, dès que tout de suite, il y a un projet qui est bien construit, qui est bien ordonné, bah là, ça se passe bien. À Rennes, t'as quand même eu le départ de leur ancien directeur sportif, l'ancien du PSG, là, je me souviens plus de son nom. L'étang qui est parti à Lille, ça t'oblige à reconstruire quelque chose de nouveau avec ton coach, tu changes de coach. Marseille, c'est pareil, je sais pas, ils changent de coach tous les ans, c'est compliqué, tu fais un recrutement, tu dois recruter encore pour ton nouveau coach. Non, je suis plutôt d'accord, enfin aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur cette Ligue 1, qui sont venus avec des ambitions, avec une belle structure. Et on va dire certains clubs plus on va dire les plus anciens hein, des résidents même de la Ligue 1 comme tu le dis comme Rennes, Lyon ou Marseille bah, qui ont besoin de se mettre au goût du jour. Alors Lyon le fait Lyon l'a vu, elle l'a fait quand même parce qu'elle a fait quand même un sacré recrutement en hiver. Et ils dépensent quoi, à peu près 60 millions d'euros, quelque chose comme ça.
Ouais,
Ils
c'est
vont te
ça.
chercher voilà une vraie structure. Et puis tu sens aussi que ça s'est apaisé en interne entre Textor et Olas. Donc ça leur permet aussi de construire sur des meilleures bases. Mais oui, enfin aujourd'hui, bah, le foot a changé. Oui, c'est une banalité de dire ça. Mais ces clubs, ouais,
Après,
Rennes,
justement, dans le
se
même
mettre au goût
panier,
du jour.
je mets aussi Saint-Étienne et Bordeaux dans le même panier. C'est un peu hors sujet maintenant, vu qu'ils sont en Ligue 2,
Ouais,
mais justement, voilà, ils ont coulé parce qu'ils n'ont pas réussi à se rénover. Voilà. Et
D'ailleurs, ça se passe très bien pour Saint-Étienne, qui sont
je vois
deuxième de
ça.
Ligue 2, il me semble.
Ouais.
Donc revoir remonter d'ailleurs c'est Auxerre qui sont premiers donc revoir Auxerre et Saint-Étienne en Ligue 1 ça serait pas mal quand même tu vois
Ah, ça
rappelle
serait un
ça
vrai.
ouais, ça
C'est sûr.
rappellerait quelques petits souvenirs bon Auxerre ils font le yo-yo mais voilà un petit derby de la Rhône enfin entre Saint-Étienne et Lyon voilà ça manque parmi les derbies puis bah, j'espère qu'on pourra le commenter l'année prochaine. Très bien. Et du coup, pour finir voilà sur cette équipe avant de passer au résultat, est-ce que tu penses que, enfin, à quel type de match on doit s'attendre entre Monaco et Rennes? Est-ce que Rennes doit faire, comme on a pu le voir un peu face au PSG en Coupe de France, et être assez attentiste, ou même quand ils jouent contre des plus grosses équipes, hein, même quand ils avaient joué contre le PSG en championnat, être un peu plus attentiste et voilà attendre les erreurs, les contres et jouer sur des transitions rapides, parce que quand Rennes n'a pas la possession de balle, c'est quand même 5 victoires. Ou alors, bah, regarder Monaco dans les yeux, puisque Monaco aussi a ses difficultés et n'est pas forcément une équipe très solide à domicile. Et de là, bah, prendre le jeu à son compte et essayer bah, de tout de suite assommer les Monégasques.
Moi, je pense plutôt au deuxième cas de figure. Oui. Je vois pas Rennes enchaîner un deuxième match en 4 jours où ils vont se mettre à 10 derrière et attendre l'occasion. Je pense c'est impossible de ronger son frein autant pendant 180 minutes en 4 jours. Ils vont vouloir jouer, ils vont vouloir créer du foot. Et voilà, ces joueurs comme Terrier, Blas, qui sont des créateurs magiques et magnifiques. ils sont obligés, ils peuvent pas ne pas jouer, ne pas créer quelque chose. Donc moi, je vois justement, je vois Rennes prendre les devants et essayer de mener le match, justement parce que il part du principe que Monaco est très faible à domicile, très faible en défense, malgré un très bon gardien. Enfin, très faible en défense, je veux dire, ils se prennent beaucoup de buts. Donc ils vont vouloir, je pense, marquer un but assez rapidement pour ensuite fermer la porte à clé derrière, garer le bus et repartir de la principauté avec les 3 points.
Ok, du coup, ton petit prono pour ce match?
Mais, c'est là que c'est
Tout
vraiment intéressant, mais je ne les vois pas
se
réussir.
laïus pour dire ça, quoi.
Non, mais c'est des bonnes intentions. Ça va créer un très beau match, je pense, ce différentiel entre les deux dynamiques d'équipe. Mais je vois un match avec beaucoup de buts quand même. Mais je vais partir sur un 2-2, quelque chose comme ça. Ouais, avec, comme je disais, Rennes qui marque assez rapidement. Monaco qui se reprend en fin de première mi-temps peut-être. Et Rennes qui égalise voilà, en deuxième mi-temps à la fin du match pour tuer le suspense. Enfin, non, pas pour tuer le suspense, mais pour tuer les ambitions de Monaco.
Donc toi, 2-2.
2-2, ouais, c'est ça.
Okay. Sachant que Rennes a son effectif au complet, hein, sauf Naguida qui est blessé, tandis que Monaco, voilà, tous les habituels absents, hein, tels que Caio Henrique, mais il y aura le retour de Zakaria. Alors moi, tu vois, pour te contredire, je vois quand même Monaco gagner. Je vois mal, alors cette Ligue 1, je sais que je dis ça et tu verras que Rennes va gagner 3-0, mais j'ai quand même envie de croire que Monaco est sur une bonne vibe, et qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, hein, même si elle a ce petit matelas par rapport à Lille, il y a 3 points d'avance, et d'ailleurs, oui, on parlera de Lille qui joue contre Marseille, si je me trompe pas. Mais ouais, non, moi je vois Monaco gagner à Rennes, contre Rennes, pardon. J'irais 3-1. 3-1 pour Monaco.
Ok. Après, c'est vrai que Rennes, c'est leur dernier match où ils peuvent se permettre de perdre, je pense. Parce
Ah oui.
que perdre contre Monaco, c'est pas une abomination. Ça va, ça peut se comprendre. C'est pas une faute technique. C'est pas voilà. C'est les matchs d'après qu'il faut gagner justement, parce qu'ils vont enchaîner. Ils vont enchaîner après contre Brest, mini derby, et Lens, grande finale pour la 6e place en dernier match. C'est là que ça va être important pour eux, je pense.
Ouais, eux, leur objectif, c'est la 7e, 6e place, quoi.
Voilà, c'est ça, je pense. Ils peuvent pas vraiment prétendre à plus haut. Enfin, je veux dire, ils ont quand même 3 points. Il reste, comme on disait, 7 matchs. 3 points à 7 matchs, sachant qu'il y a 4 équipes ou 5 équipes. Voilà, c'est beaucoup pour cette
Ouais.
place-là. Ouais.
Ok. Bon, bah très bien, très très bien. On va passer dès à présent au match suivant. Donc le match, là on a fait le match du dimanche 17h. Là on va faire le match du soir, le match en prime time, Nantes contre Lyon. Alors moi je voulais aussi parler de ce match-là parce que d'un côté on a un nouveau Nantes, enfin un nouveau Nantes si on peut l'appeler comme ça. Et de l'autre côté, bon, on a un Lyon quand même qui est sur une très bonne vibe et qui s'est d'ailleurs notamment qualifié en Coupe de France, en finale de Coupe de France, face à cette équipe valenciennoise. D'ailleurs, je fais un petit retour en arrière. Terrien en équipe de France, non, toi t'es pas dans la propagande, non, tu,
Si,
hein.
pourquoi pas. J'aime beaucoup Terrier, mais je pense qu'en attaque, on est assez fourni quand même. Et
Bon,
qu'il est pas assez jeune pour prétendre à une place dans 3-4 ans. Et je pense que pour changer l'équipe qui est en place, il préfère prendre des joueurs qui ont 19 ans, 20 ans, 22 ans, qui seront le futur. Mais si Terrier un jour en équipe de France, je serais ravi. J'ai adoré son passage à Strasbourg, j'adore le joueur. Ouais,
on
on
n'est pas à
verra.
l'abri du surprise. On a vu
Et
Chibonda en équipe de France, on a vu
oh là
Rani en équipe de France.
là. Oh là là.
Pourquoi pas?
On n'a pas
Bref,
vu Bounassa. On n'a pas vu
on n'a
Bounassa en
pas
équipe
vu
de France.
Bounassa. Retournons en direct. Lyon-Nantes. Donc voilà, pour vous rappeler au match aller, hein, Lyon s'était imposé 1-0 face à Nantes, hein, sur la plus petite démarche face à cette équipe. Pour vous rappeler un peu ce qui s'était passé la semaine dernière, donc Lyon a fait match nul face à Reims, un partout, sur une jolie tête de Nouama en fin de match, hein, qui est en sortie de banc. De l'autre côté, Nantes, le nouveau Nantes de Comboiré, a fait tomber le GC Nice à l'extérieur, donc Nantes a gagné
une deuxième fois.
Je crois même que la première défaite de Nice était déjà face à Nantes, il me
semble. Exactement.
C'était Nantes ou Le Havre? Non, c'était Nantes.
C'était Nantes.
Donc, comme quoi, sa porte est pareille. C'était un nouveau coach à l'époque. C'était Gourvenec qui venait d'arriver aussi, je crois. C'était son premier match.
Là,
contre Nice.
Par contre, je m'y perds, je sais plus qui, quand. Il y a eu trop de coachs
dans cette ligue. donc Nantes, voilà, qui s'est imposé. Donc Nantes est actuellement 14e avec 28 points. Donc il y a un point d'avance sur Le Havre et deux points d'avance sur Lorient, le premier relégable. Et deux points de retard sur Montpellier qui est 13e, tandis que Lyon est 10e avec 35 points, donc à 3 points d'avance sur Toulouse qui est 11e et 4 points de retard sur Reims qui a 39 points. Alors on va commencer notamment par l'équipe qui reçoit et tout de suite on va se mettre dans le bain. Alors nouvelle équipe. Voilà, on repart un peu, on va dire, sur une feuille blanche. Comboiré vient d'arriver. Comboiré a fait une belle opération. Est-ce que tu penses que, un peu comme il avait fait son passage, il me semble que c'était il y a 2 ans quand il est arrivé, il les sauve deux ou trois ans, il les sauve aussi de la relégation. Est-ce que tu penses que cet effet Comboiré peut battre l'effet Sage?
Alors, déjà, une petite parenthèse, je voulais parler de l'effet Comboiré. Moi, la semaine dernière, contre Nice, ça m'a fait pleurer de joie de le revoir sur le banc de Nantes. C'était un des coachs, je pense, qu'on a tous aimé à Nantes. Et voilà. Et la manière dont ça s'est terminé, on était un peu déçus, un peu tristes. Mais là, le revoir sur le banc de Nantes, à célébrer avec ses mimiques magnifiques, je ne sais pas si vous le voyez, mais avec ses deux bras à battre l'air, on dirait même les mimiques de Klopp. Je voudrais même l'appeler Antoine Klopp Boiré.
Et voilà, il s'enflamme. Voilà. Une victoire et il s'enflamme.
Exactement. Non, mais ça faisait plaisir. Après, justement, pour revenir sur le côté sportif et coaching, l'équipe qu'il a proposée était très intéressante. En petit 4-3-1-2, je pense pas qu'on ait déjà joué comme ça cette année. Et c'est intéressant de voir Comboiré qui arrive à ce moment-là de la saison pour sauver l'équipe, lui qui connaît déjà, 90% des joueurs. Le seul joueur qu'il connaissait pas, je pense, c'était Ablin, mm-hmm. Lui qui arrivait en prêt de Rennes. Et en plus de ça, ça aussi une grande malchance à Nantes, c'est que dès qu'on a un petit bonus, un petit côté positif, il y a toujours un négatif derrière. C'était la blessure de Moses Simon qui est survenue, je pense, quelques jours après l'annonce de Comboiré, enfin, du retour de Comboiré. Donc là, on se disait que mince, l'animation offensive de Comboiré va pas tourner, etc. Ça va être compliqué. Au final, il sort un 4-3-1-2 sans besoin d'ailier. Sachant qu'à droite, à Nantes, il n'y a jamais eu vraiment d'ailier qui a gagné sa place pour la garder jusqu'au bout. Oui, après, justement, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait suivi la saison de Nantes pendant son absence depuis juin ou fin mai dernier. Parce que oui, il utilise chaque joueur à ses avantages. Et c'est intéressant, il a apporté une stabilité au milieu avec son 4-3-1-2 avec les trois des milieux. Et puis Mollet qui en 10 était très intéressant pour créer le jeu, pour servir Mohamed et Ablin, justement. Ablin qui fait un match.
Qui fait un super incroyable match. Hein.
Symboliquement, c'est un mec prêté par Rennes qui incarne le renouveau de Nantes cette année. Et en parlant de ça, d'ailleurs, de la rivalité Rennes, je vous invite tous à écouter le podcast d'il y a 2 semaines où Lucas, notre ami Lucas, avait bien résumé en fait la situation de Nantes et de leur derby contre Rennes et les rivalités, etc. Et même, oui, la période Combouré, il en a parlé, c'était très, très émouvant aussi.
C'était très émouvant cette Coupe de France. Aïe, aïe,
Là, oui,
aïe.
ça aussi, encore des larmes, encore des larmes. Mais voilà, je m'épanche un peu, je divague.
Ouais,
C'est
revenons en
la.
live, revenons en
Voilà,
direct.
revenons.
Moi, ce qui me plaît aussi et ce qui m'a plu avec cette équipe nantaise, hein, c'est que vraiment tout de suite, bon, tu le dis, hein, c'est vrai qu'il y a une partie de l'effectif que Camboré connaît très bien, mais tout de suite, voilà, il a tranché dans le vif, hein. On aurait pu voir certains joueurs revenir dans 11, comme par exemple Bamba, Kadewere ou Coco, qui sont quand même des joueurs qui ont un certain nom en Ligue 1, hein, qui sont connus. Alors certes, ils n'ont peut-être pas apporté l'efficacité qui était attendue, mais qui, voilà, on peut se dire qu'avec un coach qui connaît bien la Ligue 1, qui va les relancer. Et au final, t'en parlais un peu, hein, il fait un super match, il va te chercher Ablin. Ablin, cette saison, enfin avant ce match-là, c'était 5 matchs titulaires. La plupart, sinon des matchs, il commençait sur le banc. Il y a des moments où il était même pas retenu. Est-ce que tu penses que du coup, c'est voilà, est-ce que c'est aussi ça, cet effet Camboiré, de voilà trancher. Trancher dans le vif du sujet, direct, imposer ses idées fortes et se reposer sur des joueurs qui étaient moins mobilisés, comme Ablin. Tu penses que ça va continuer comme ça, notamment leur match face à Lyon, ou tu penses que quand même il va essayer d'apporter un peu plus de sécurité et de faire confiance et donner la chance à ses cadres, hein, même Moutoussamy, qu'on voit beaucoup moins jouer depuis son retour de la CAN?
Alors, oui, c'est vrai que Camboiré aime beaucoup la stabilité. Il n'aime pas changer d'équipe toutes les semaines. Il veut un groupe stable. Chacun, plus ou moins, sait où est sa place. Donc, justement, je ne pense pas que la défense, le milieu changera. Parce que Chirivella, Augusto, ils sont, je dirais, intouchables. Sissoko, il fait des matchs très bons et d'autres matchs très mauvais. Donc, voilà, ça se vaut avec, enfin, j'ai pas envie de dire, non, ça se vaut pas avec Moutoussamy, mais voilà, l'un peut être titulaire comme l'autre, donc peut-être que c'est la seule possibilité de changement ou de faire tourner, je pense que je verrai au milieu. Après Mollet en 10, pareil, il n'y a pas d'autres joueurs à Nantes qui puissent vraiment apporter autant que Mollet à ce poste-là, parce qu'on a beaucoup d'ailiers, mais pas vraiment de joueurs centraux de ce genre. Et après, en attaque, Mostafa, intouchable, il est impérial. Et Ablin, je pense qu'il a trouvé, il a trouvé son match référence. Et il va continuer à construire là-dessus. Chirivella, d'ailleurs, le capitaine l'avait dit à la fin du match contre Nice, c'est que tout le monde connaissait les qualités d'Ablin, mais personne ne l'avait encore jamais vu en match parce que, bah, voilà, à force de ne pas avoir la confiance des coachs ces derniers mois, de pas forcément faire l'unanimité sur la feuille de match, lui qui n'avait que une dizaine ou une vingtaine de matchs au compteur en Ligue 2. Donc voilà, justement, il avait, comme tu disais, et tu parlais de Kadewere, lui qui en tant qu'ancien de Lyon, avec une carrière à l'étranger aussi, devait plutôt prétendre à une place titulaire dans l'équipe un peu plus donné qu'à Abin. Donc voilà, ouais, je pense que c'est très très bien que Camboré soit arrivé et qu'il ait imposé son équipe et son style de jeu. J'ai un petit pressentiment que Gourvennec cherchait la facilité à faire jouer les joueurs qui avaient été achetés récemment par le président pour s'apporter les faveurs ou pour essayer de comprendre le projet du président. Mais Camboré, non, j'ai l'impression, lui, il a un objectif en tête, un deuxième challenge, sauver Nantes une deuxième fois des bas-fonds du foot français. Et il est en mission. Et voilà, encore une fois, il sait qu'il sera là peut-être que 3 mois. Mais s'il aura sauvé Nantes, sa mission sera faite, ça sera remplie et puis il rentrera chez lui heureux.
Ah, toi, tu penses que là, bon, c'est vrai que vu comment ça s'est fini la dernière fois, ça m'étonnerait que Camboiré s'installe dans la durée au FC Nantes. Mais du coup, voilà, ça va nous permettre de switcher sur l'adversaire, le futur adversaire du FC Nantes, donc l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui, de son côté, a aussi un gros calendrier, hein, parce que aujourd'hui, si Lyon veut accrocher les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, clairement, elle n'a plus droit à l'erreur. Aujourd'hui, Lyon est dixième avec 35 points, donc 4 points de retard sur Reims. Oui, 4 points de retard sur Reims, Rennes et Marseille, puisque les trois sont à 39 points, en partant du principe que la place de septième sera qualificative, hein, si le PSG l'emporte, ou si Lyon même l'emporte. Non, non, faut que non, puisque les
Ils
places
seront
que
en dehors
ouais.
du coup. Mais justement, c'est ce que je voulais t'enchaîner là-dessus. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que la seule chance que Lyon a de jouer l'Europe l'année prochaine, c'est justement de faire un sans faute, mais le 25 mai face au PSG. Les autres matchs en Ligue 1, je pense, c'est pas en dire que c'est pour du beurre, mais ils ont trop de points de retard, sachant qu'il y a trois équipes devant eux qui sont mieux placées et qui ont un calendrier un peu plus simple, peut-être. Donc, c'est mathématiquement impossible, je pense. C'est mon avis.
Toi, tu penses que Lyon n'arrivera pas parce que, alors, c'est vrai, faut quand même le dire et faut le noter, faut rappeler un peu le calendrier. Lyon, ils vont quand même affronter, donc voilà, un Nantes qui se bat pour sa qualification. Ils affrontent Brest, qui est quand même deuxième du championnat. Ils vont affronter le PSG le 21 avril. Donc le PSG jouera sans doute aussi son match qui lui permettra d'être champion. En plus, ça sera au Parc. D'ailleurs, ça sera le 21 avril. Hasard, je ne sais pas.
Arrête de faire la promo.
derrière, il joue quand même contre Monaco à domicile. Il joue contre Lille. Après, il y a Clermont et Strasbourg. Alors, peut-être que Clermont sera déjà relégable à ce moment-là. Strasbourg sera déjà sauvé. Donc, ces deux dernières journées, on ne sait pas comment ça peut se passer à ce niveau-là. Mais ils ont quand même là, ils vont enchaîner 5 matchs très chargés. Plus le droit à l'erreur. Alors, toi, tu n'y crois plus. Toi, tu penses que ils arrivent, si, ils peuvent pas se qualifier pour l'Europe via le championnat.
Alors déjà, petite parenthèse, un petit Strasbourg-Lyon pour les supporters strasbourgeois en dernier jour, en dernier match de Ligue 1. Ça devrait rappeler de très très bons souvenirs d'une frappe magnifique sur un coup franc de Dim Lienard pour le maintien. Strasbourg qui s'était maintenu en première saison en Ligue 1, de son retour en Ligue 1. C'était magnifique. Mais pour revenir à ta question, c'est quand même compliqué. Tu l'as dit, pour espérer avoir une septième place, faut gagner tous les matchs. Sachant que contre PSG et Brest, ok, Brest peut-être pas, mais contre PSG et Monaco, c'est très très compliqué. Je pense qu'ils sont quand même en dessous. Et Brest qui est surmotivé. En plus, c'est quatre équipes avec Lille qui sont hors d'atteinte de Lyon, qui jouent pas vraiment dans la même course cette année. Qui auront leur propre motivation pour assurer soit le titre, soit la Ligue des Champions, soit l'Europe en général pour Lille. Donc, ouais, compliqué, je pense, d'accéder à l'Europe via le championnat pour Lyon cette année.
Ok. Donc ouais, objectif Coupe de France, parce que mis à part ça, Lyon, moi je les vois pas vraiment se faire rattraper par les équipes qui sont derrière. Alors certes, elle a déjà 3 points d'avance sur Toulouse et Lorient qui a 26 points. Lyon ils en ont 35, il y a 9 points d'écart. Je pense que voilà,
Ça
le
devrait le faire.
maintien, ouais,
On
voilà le.
parle plus de descente en Ligue 2 de Lyon. On en
Non.
parlait un peu en novembre, je crois. Quelqu'un disait ça une fois, je pense, mais je crois que c'était dans ce podcast d'ailleurs, mais non.
Voilà, il y a des chances que ce soit moi. Mais ok, d'accord. Bah, pour parler un peu plus de l'équipe lyonnaise, moi il y a un point aussi que je trouvais intéressant à aborder hein, sur cette équipe lyonnaise. Est-ce qu'on peut dire actuellement que Lyon est peut-être voilà, tu parlais d'équilibre que Pierre Sage aurait trouvé. Est-ce que Lyon est moins dépendant aussi de Lacazette? Et est-ce que Ryan Cherki, alors c'est deux questions en une, et est-ce que Ryan Cherki justement ne serait pas ce facteur X de cette fin de saison? On l'a vu, il a fait quand même une belle entrée face à Toulouse où il fait une passe décisive à un but, il fait une passe décisive face à Valenciennes, alors un peu moins bien face à Reims, mais est-ce que au final, Cherki ou même d'autres, hein, comme Nouama qui a marqué contre Reims, est-ce qu'il y a moins cette dépendance de Mbappé et grâce à cet équilibre, bah, Lyon peut
De
peut-être faire un petit de Mbappé, pardon, de Lacazette. Je le
Ouh
vois
là là.
partout. Il me hante, il me hante.
Ouh là là. Il y a Jean-Michel Aulas qui est en train de vibrer là.
Ah, là, il s'est dit, attends,
Mbappé à Lyon.
Mbappé à Lyon qui l'a fait signer. Comment? Attends, fin de contrat et tout ça,
Ils vont en faire
il est
un aveu.
arrivé. Donc, ouais, tu est-ce que aujourd'hui Lyon, en tout cas en attaque, peut compter sur ses autres joueurs, Benrahma, Nouama, Cherki, notamment Cherki, ce facteur X de cette fin de saison?
Après, oui, en fait, Lacazette, il a marqué 16 buts en Ligue 1, c'est un total respectable, mais oui, ils sont beaucoup moins dépendants de lui, j'ai l'impression, même si depuis 5 matchs, il marque toujours autant, il y a d'autres joueurs autour qui marquent, et c'est ça qui est beau dans l'équipe, c'est que, à part lui, il n'y a pas de seul remplaçant à Lacazette, il n'y a pas de joueur qui prend en main toute l'équipe. Et c'est plutôt justement, je pense, toute l'équipe qui se met solidairement à l'avant, qui vont chercher une victoire tous ensemble. Et oui, comme tu l'as dit, ça passe aussi par Cherki, qui, je pense, depuis oui, 2, 3 semaines, un peu plus peut-être. Commence à être très intéressant dans le jeu d'une manière qui est beaucoup moins comment dire? Je perds mes mots.
Beaucoup moins dépendant.
Oui, qui est beaucoup moins néfaste à la mentalité du groupe où on le voyait en début de saison avec toutes ces histoires de chouchou de Laurent Blanc, mais qui fasse pas les efforts pour revenir en contre-pressing ou quoi que ce soit. Là, je vois Cherki beaucoup plus oui, solidaire avec ses coéquipiers, moins la grosse tête, moins d'ego, moins de. En fait, voilà, je pense qu'il a compris que c'est pas à lui de porter l'équipe, et par conséquent, il porte l'équipe beaucoup mieux. Si tu me suis. Et après,
Ouais, complètement.
à côté de lui, oui, il y a Nouama qui marque, Orban qui marque, ils ont tous deux ou trois buts en attaque, même Cacré, il marque aussi. Donc oui, c'est intéressant de voir chaque joueur d'une équipe marquer plutôt que tout dépendre sur un seul attaquant. Après, tant mieux pour Lyon. Ils ont aussi cet attaquant qui marque plein de buts. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de choses. Ils ont tout pour réussir. Mais trop tard pour être septième.
Ouais, toi t'y crois pas, ils le feront pas, quoi.
Après, j'attends juste à être démenti, à les voir faire. Je serais heureux de voir ce genre de poupée. Ce serait magnifique quand même de partir de 18e, ils étaient? Non, 17e quand même. Je pense pas qu'ils étaient derniers au moment.
17e, je crois que c'est
Ouais.
Lens pendant un moment qui a été
Ouais.
18e,
C'est vrai. De
mais
17e à 7e en 4 mois, c'est pas mal quand même.
ah non, ils ont été 18e pendant une très longue période, ouais, même plus long, ouais, de la 7e journée jusqu'à la 15e journée, ils étaient 18e.
Ouais. Donc de les voir passer de 18e à européen. Ça fait rêver.
Ouais. Après, bon, avec 60 millions en plus de transferts, ça aide.
Ouf. Non, ils n'avaient pas d'argent en octobre, en novembre. Tu te
Ouais,
rappelles? La
c'est vrai.
DNCG, ils avaient dit que. Ouais, non.
C'est
Bon.
ça, c'était la crise, et 3 mois plus tard, d'un coup, ils ont de l'argent, quoi. Bon, et puis, Olas, on va dire, a ouvert les comptes en banque. Ok, bon, bah, on va passer au score. Toi, ce match, tu le vois comment, en termes de résultats?
Alors, le supporter dirait une victoire haut la main 1-0 de Nantes, mais en soi, les Nantes-Lyon, c'est souvent intéressant comme match. Je pense à un 3-3 en coupe avec un doublé de Bessin il y a quelques années. Les supporters nantais s'en rappelleront. Mais je vois aussi, voilà, je vois aussi un match nul avec des buts parce qu'en défense, Nantes. Même s'ils ont été solides contre Nice, c'est sûrement dû au fait que Nice a été un peu inoffensif. Donc je les vois quand même prendre des buts. Je les vois marquer aussi. Ça va être compliqué. 2-2 peut-être aussi.
Ouais, toi, t'es week-end de... Bah, alors,
Style de Denis.
week-end de but, mais week-end de
Une
nul chez
file de
toi.
buts. Oui, exactement. Après aussi, faut penser au fait que la Beaujoire est à huis clos ce week-end. C'est très dommage d'ailleurs que la Ligue ait décidé d'imposer cette interdiction de supporters. Apparemment, il y aurait eu 281 fumigènes lors du match contre Strasbourg. Je ne sais pas de quoi il parle. C'était les 25 ans de la Brigade Loire.
Personne ne voit de quoi pas. On n'a rien remarqué en
Non,
tout cas.
il n'a rien
Sache-le
remarqué, mais
que
en tout
nous
cas, ça sera
ne.
dommage pour l'ambiance du match, parce que le public de la Beaujoire peut faire basculer un score d'un sens comme de l'autre, d'ailleurs.
Mais on fera un sujet là-dessus, avec les supporters, les préfets, les trucs comme ça, les gens de la ligue, alors s'ils acceptent de parler, hein. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de comprendre un peu aussi derrière la mécanique. Et puis, c'est dommage, parce que moi, ce genre de choses, c'est quand même des trucs qu'on aime voir à la télé. Ça gêne pas les matchs. Enfin, les joueurs n'ont pas l'air d'être dérangés plus que ça. Alors, peut-être, hein. Problème respiratoire ou je sais pas de vision, mais j'ai pas l'impression que ça dérange plus que ça. Mais ça fait quand même un très beau spectacle à mettre sur les réseaux sociaux. Enfin bon, bref. On retourne au direct. Donc toi 2-2. Ok. Bah moi tu vois, je crois en l'effet Camboiré. Alors peut-être parce que c'est un coach que j'aime bien, parce qu'il est passé aussi par le PSG, qu'on a voilà
Viré,
laissé
c'est le mot.
partir.
Viré,
Non, non,
viré, champion de Belge.
on lui a gentiment montré la porte alors qu'il était premier du championnat à ce moment-là, mais et qu'il faisait voilà des bonnes choses au PSG. Donc bon, un
Il
peu
n'était pas
dommage.
assez bling.
Et il était pas assez bling bling. Antoine, tu vois, tu sais, d'un côté t'avais Antoine et
Antoine
d'un côté
Club-Boiré
t'avais
n'est pas assez
Carlos.
bling
Voilà, Club Boiré, ah, voilà, c'est ça. Il avait pas changé encore son nom. Si il était venu avec Antoine Club Boiré, on
Ouais.
l'aurait gardé. Antoine Camboiré, ah. Mais je vois quand même Nantes gagner. Moi, je vois Nantes gagner sur un petit score de 1-0.
Merci, j'attends de voir.
C'est. Ouais. Je sais pas, j'ai un petit feeling lâchant un truc
Très bien, très bien.
là. Nickel. Bon, bah, on va faire notre tour des stades. C'est
Allons-y.
parti. C'est parti pour le tour des stades. Alors, tour des stades, on va commencer vendredi. Donc, vendredi, c'est un très gros match. Lille-Marseille, c'est un match dont on aurait pu parler, mais on a beaucoup parlé de ces deux équipes en ce moment. Et puis voilà, Marseille, après le classico, on voulait les laisser respirer un peu, là. Hein, tranquille. Prenez le temps de vous remettre un peu la tête à l'endroit. Donc Lille-Marseille pour se remettre un peu dans le bain. Match nul au match aller, hein. Un petit 0-0 entre les deux équipes. Donc Marseille a perdu la semaine dernière face au PSG, donc 2-0 à domicile. Marseille qui est 7e avec 39 points, avec autant de points que Rennes, Reims et 3 points de retard sur Lens qui est sixième. De son côté, Lille a gagné dans le derby du Nord, donc face à Lens, 2-0 avec une magnifique prestation de Zegrova. Lille qui s'est bien replacée et qui a profité justement de la défaite de certaines équipes dont on reparlera comme Nice et qui est aujourd'hui à 46 points, donc quatrième avec 3 points d'avance sur Nice. Toi, j'ai envie de savoir ton petit pronostic pour ce match entre Lille et Marseille.
Moi, je vois Lille gagner quand même. Je les vois pas prendre de but parce qu'on le sait, on le dit chaque semaine, Lille à domicile, ils sont imprenables presque, ils prennent presque fort. Jamais de but. Et ok, on disait aussi jusqu'à la semaine dernière que Marseille était aussi invaincu à domicile, mais bon, c'est plus le cas. Désolé les Marseillais. mais oui, je vois Lille gagner parce que le match contre Paris, ça a dû être un petit coup derrière la tête pour Marseille qui s'est un peu assommé. Et Lille, ils sont en mission aussi. Ils veulent leur qualification en Europe. Marseille aussi, bien sûr, mais ils auront d'autres occasions, je pense. Lille, il ne faut pas qu'ils laissent partir ce train. Parce que le train là, avec Brest, Monaco, PSG, enfin PSG c'est bon, mais ça va vite.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense que quand même Lille est sur une bonne dynamique. Puis voilà, encore une fois, à domicile, Lille, c'est très très fort. Marseille, voilà, c'est quand même une équipe que je trouve qui a besoin de. Alors peut-être qu'ils ont rechargé les batteries là pendant cette semaine. Parce qu'ils en avaient vraiment besoin, mais je vais quand même Lille gagner sur j'ai envie de dire 2-0 Lille. Ouais, 2-0 Lille. Match suivant, Lens face au Havre, le HAC. Alors au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un 0-0. Et c'était pas la journée la plus folichonne. Hein. Les deux équipes s'étaient séparées sur un 0-0. Donc pour remettre aussi un peu dans le contexte, hein, Lens est actuellement sixième. Lens est actuellement sixième du championnat, donc qui a un peu d'avance sur les équipes qui la suivent, telles que Marseille, 3 points d'avance, hein, mais bon, qui a perdu 2-0 face à Lille, mais qui a un point de retard sur Nice, qui est cinquième, donc match très important. Et de l'autre côté, Le Havre qui est quinzième, hein, Le Havre qui est sur une très mauvaise passe, hein, puisque sur les 6 derniers matchs, c'est quand même 5 défaites et une victoire. Le Havre qui est 15e et qui n'a qu'un point d'avance sur Lorient, qui est le premier relégable, donc le barragiste, et qui a un point de retard sur Nantes, qui a 28 points, et 3 points de retard sur Montpellier. Tes pronostics pour ce petit Lens-Le Havre ?
Moi, malheureusement, je pense que ça va être dans un sens seulement. Lens, ils sont clairement au-dessus du HAC. Et le Havre, c'est comme tu disais, oui, les 5, 6, 7 derniers matchs n'ont pas été exceptionnels, même si dans le jeu, ça allait. C'est juste, soit ils sont malchanceux, soit ils sont face à quelqu'un qui fait le match de sa vie. Mais voilà, c'est pas assez stable, je pense, pour faire face à Lens qui aura l'esprit revanchard, pardon, après ces deux dernières défaites. D'ailleurs, la dernière contre Lille, c'était 2-1, pas 2-0. Faut pas leur enlever ce petit.
Ouais, c'est vrai, c'était 2-1 avec ce magnifique but de Wai. C'est vrai. Désolé, les amis, c'était 2-1. Mais moi, je vais te suivre.
Du coup, je dis 2-0. Pardon. J'ai pas mis le score, mais 2-0.
Mais de toute façon, je te suis aussi sur cette idée, puisqu'en plus, ça a le retour de Machado, Kouzanov et Gradit, hein, donc surtout Gradit en défense, côté Lensois, et puis le Havre est pas sur une bonne phase, et je pense que c'est pas contre Lens qu'ils iront chercher les points pour les maintenir, malheureusement. Donc, je vois aussi Lens 2-0. PSG Clermont. Alors, on va se remettre aussi dans le contexte de ce match, hein, de ce PSG Clermont. Donc, les Clermontois qui avaient réussi à faire match nul 0-0 face au PSG, va savoir comment, parce que c'était un match quand même qui a été bien dominé par les Parisiens, mais qui n'avait pas réussi à marquer. Donc le PSG qui est premier du championnat avec 12 points d'avance et qui a battu l'Olympique de Marseille 2-0 le week-end dernier. De son côté, Clermont qui est en grande difficulté, qui est 18e du championnat et qui a perdu 3-0 face à Toulouse, hein, avec des magnifiques buts de Siro notamment. Siro, mon MPG te remercie. Voilà la petite dédicace. Donc oui, Clermont très en danger, hein, qui a 20 points, qui a 7 points du premier non relégable Le Havre, 3 points de Metz qui est 17e et 6 points de Lorient. Tes pronostics pour ce match, Alexis?
Alors, tu fais bien de parler du 0-0 à l'aller, parce que je vois un 0-0 cette fois encore. Je m'explique. Clairement, on sait que c'est compliqué dans le jeu pour aller chercher les buts, pour aller chercher les victoires. Ils ne marquent pas beaucoup. Je crois qu'ils ont marqué 20 buts, c'est ça, il me semble. 19 buts cette année. Et que défensivement, c'est pas non plus extraordinaire. C'est la pire, non, la deuxième pire défense de la Ligue 1. Mais il y a un côté, oui, où Paris joue contre Barcelone dans peu de temps après. Ils auront peut-être les idées ailleurs. Donc ça peut partir soit d'un côté, soit de l'autre. Soit ils vont vouloir montrer qui est le patron. Soit justement avoir les têtes ailleurs et se perdre en chemin. On notera d'ailleurs que Paris ne jouera pas en Ligue 1 entre les deux matchs contre Barcelone. Mais oui, je vois un 0-0 encore. Clermont qui arrive à faire le double hold-up en arrachant 2 points contre Paris. Il y en a peu qui arrivent à faire.
Ouais, il y en a peu. Après, bon, ça joue quand même au parc. Même si c'est vrai que t'as raison, hein, il y a le match du Barça. Je pense que quand même, Luis Enrique va faire un sacré turnover dans l'équipe avec des joueurs, pardon, qui jouent beaucoup moins. Par exemple, possiblement voir des joueurs comme Mukiele. Et puis après, le problème, c'est que du côté Clermontois, t'as quand même des joueurs qui sont absents, comme Gonalons. Ou encore Rachani, t'as Diop qui est incertain. Alors certes, t'as le retour de Borges et Gastien, mais moi je vois quand même une victoire du PSG, mais sur un petit score de 1-0. Genre rien de fou, quoi. Mais le match nul ne m'étonnerait pas non plus. Mais moi je vais dire 1-0 quand même PSG, quoi.
Ok, parfait.
Brest contre FC Metz. Brest FC Metz, donc Brest était imposé au match aller pour changer 1-0. Il faudrait calculer le nombre de petits de 1-0 que Brest a fait cette année. Ça doit être assez quand même important. Bref. Donc Brest était imposé 1-0 au match aller. Brest qui est actuellement deuxième du championnat, hein, Brest qui s'est imposé 1-0 face à Lorient, hein, qui a notamment poussé Régis Lebris en dehors, voilà, d'aller coacher ailleurs, hein, pour le plus gros bénéfice de Gourvennec qui a retrouvé un club directement. Mais bon, on parlera de Lorient après. De l'autre côté, le FC Metz qui s'est largement incliné, pardon, face à Monaco 5-2 avec cette magnifique talonnade de Oukidja, hein, qui marquera la saison et
Oh,
que
t'es
on
méchant.
n'oubliera
Oh là
pas.
là.
Non, ça, ce genre de mouvement, on peut pas les oublier. Mais bon, ne tirons pas sur l'ambulance, ne tirons pas sur l'ambulance. Dans tous les cas, Brest est deuxième du championnat avec 50 points, donc un point d'avance sur Monaco, tandis que Metz et 17e avec 23 points, donc 3 points de retard sur Lorient qui est le barragiste, 16e, et 3 points d'avance sur Clermont qui est le dernier du championnat, et 4 points de retard sur Le Havre qui est le premier non barragiste. Alexis, un pronom.
Mais en fait, je crois que Brest, c'est le nouveau Montpellier du titre, où ils gagnaient 1-0 à chaque match. Et je les vois gagner 1-0, encore une fois. Parce qu'ils vont rester sérieux. face à Metz qui va, je pense, devoir trouver des solutions assez rapidement pour marquer des points le plus rapidement possible pour se sauver. Voilà, ils vont, je pense, trop vouloir attaquer. Parce qu'ils vont se dire que défendre à 10, ça sert à rien. Sachant que Brest trouvera forcément à marquer un but à la 88e minute. Donc je vois Metz attaquer beaucoup et Brest trouver une petite brèche, une seule, enfin se fatiguer une seule fois pour prendre une brèche et marquer. Et voilà, et garder jusqu'au bout. 1-0 donc.
Ok. Ouais, pareil, surtout qu'il y a le retour de Pierre Lesmélou pour ce match, qui était suspendu après plusieurs cartons jaunes. Donc pareil, je vois aussi Brest gagner, peut-être un peu plus, 2-0. Ouais, je vois un petit 2-0 pour Brest quand même. Toulouse-Strasbourg, ça peut être un joli match, Toulouse-Strasbourg. Bon, après, c'est les matchs du multiplex de 15h. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, ils ont mis Brest à 13h. Bon, on va voir ce que ça donne. Toulouse-Strasbourg. Strasbourg s'était imposé 2-0 au match aller. Donc, c'était en tout début de saison face à Toulouse. Depuis, voilà, les dynamiques ont quand même un peu changé, puisque actuellement Toulouse est 11e du championnat. Hein, donc Toulouse qui s'est imposé face à Clermont 3-0 le week-end dernier et qui a actuellement 32 points. Strasbourg, de son côté, s'est aussi imposé 2-0 face au Stade Rennais et qui est 12e du championnat avec aussi 32 points. Donc c'est vraiment deux équipes qui ont le même nombre de points. Hein. C'est le goal average qui va aujourd'hui les départager. Donc véritable opération à faire pour ce match-là. Au niveau des absents, juste pour te mettre un peu, te donner toutes les informations, il y a quand même le retour de Donum et Spering pour Toulouse. Dreyer est suspendu du côté strasbourgeois. Et voilà, on a les absents habituels, Motiba, Gabriel et Fila qui est en reprise. Alexis, un pronostic.
Alors les deux équipes ont 8 victoires, 8 nuls, 11 défaites. Et comme tu dis, oui, c'est le goal average qui les départage. Et justement, les deux équipes, je pense, se ressemblent beaucoup dans le jeu, où ça peut faire des gros matchs contre Rennes, par exemple, et d'autres où ils savent plus se faire des passes entre eux. Donc, je vois un match nul cette fois. Je vois pas Strasbourg gagner une nouvelle fois. Je vois pas Toulouse prendre sa revanche parce que, bizarrement, même s'ils ont le même nombre de points, j'ai l'impression, je vois Toulouse maintenu beaucoup plus facilement que Strasbourg. Je les vois dans une autre optique où ils jouent plus forcément grand-chose pour cette saison-là. Et Strasbourg, qui vient d'avoir son matelas de 3 points sur les relégables et qui va peut-être relâcher un peu la sauce, ce serait dommage, bien sûr, après une victoire contre Rennes, de relâcher la sauce, de relâcher la tension. Mais oui, je vois un 0-0 peut-être, ou peut-être un 1-1. Mais je vois pas un match offensivement intéressant. Peut-être, ouais, ce sera une bataille du milieu, je pense. Ouais. Pas avec beaucoup d'occasions, mais beaucoup de tensions au milieu.
Ok. Moi, je vois quand même Toulouse gagner, parce que je trouve que c'est une équipe qui joue bien en ce moment. Certes, qui a perdu, voilà, face à Lyon, mais en soi, je trouve qu'ils sont, voilà, je sais pas, il y a quelque chose une dynamique qui est assez positive du côté toulousain. Donc, je vais quand même, ouais, moi, je vois bien Toulouse gagner 2-1.
C'est vrai qu'ils enchaînent victoires contre Monaco, Nice, Lille ces derniers temps. Donc ouais, à voir. C'est vrai qu'ils peuvent faire quelque chose.
Mais après, là où t'as raison, c'est que c'est des équipes qui peuvent battre des gros, Toulouse et Strasbourg, mais en même temps, qui perdent contre le Havre. 1-0.
Voilà,
Donc,
exactement.
des trucs qui sont improbables. C'est vrai que sur ce point-là, t'as raison, mais allez, je prends le risque, je vais dire Toulouse. Reims contre Nice, pareil, ça aussi, ça va être un très 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 gros match, hein, puisque c'est des concurrents directs. Reims contre Nice, bah Nice les avait emporté 2-1 au match aller face à Reims. Hein. Reims qui a toujours autant de difficultés, c'est vraiment une équipe qui est en dents de scie, hein, qui gagne, qui fait des nuls, qui fait des défaites, qui a du mal à enchaîner. Donc Reims qui est actuellement 9e avec 39 points, qui a fait 1-1 face à Lyon au match aller, alors qu'elle menait, elle s'est fait reprendre en fin de match sur une tête de Nouama. De l'autre côté, Nice, pareil, beaucoup de difficultés en cette fin de saison, hein, mais voilà, de ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait beaucoup de comment dire, de conflits en interne entre notamment certains cadres de l'équipe et le coach Farioli, hein, donc des joueurs qui seraient plus en phase avec la philosophie de du coach. Mais voilà, Nice qui a perdu 2-1 face à Nantes lors du dernier match. Nice qui est actuellement 5e avec 43 points, donc 1 point d'avance sur Lens et 3 points de retard sur Lille, hein, donc pareil, c'est une équipe, si elle perd potentiellement, elle loupe le train bah elle est complètement larguée du train de la Ligue des Champions. Donc gros match de leur côté. Et en termes d'absence, on a le retour de Dessmet côté Stade Rémois, Thomas Boyang qui sont toujours absents car blessés, Stambouli Darami qui sont incertains, et du côté niçois, on a Ndiachimie, qui est incertain, tout comme Morgan Sanson. Et par contre, on a le retour de Pablo Rosario et de Kefren Thuram au milieu de terrain. Alexis, un petit prono?
Alors, un petit prono sur ce match. C'est incroyable, parce que j'ai l'impression que je me répète en disant ça. Mais j'ai l'impression... Non. j'ai l'impression de voir Reims perdre des points tous les mois. Et pourtant, ouais, ils sont toujours là. ils sont toujours au même niveau, juste derrière les Européens. Mais pour le prono, je dirais Nice vainqueur, mais le dernier match contre Nantes était très compliqué, où on les a presque pas vus. Et comme tu disais, oui, il y aurait peut-être des problèmes entre joueurs et coach. J'espère que ça se finira bien, parce que cette saison de Farioli, le jeu qu'il proposait en début d'année et même jusqu'à récemment, ce serait vraiment dommage de terminer sur une si mauvaise note. Je les vois. En fait, voilà, c'est maintenant qu'on va voir si Farioli est un grand coach, s'il arrivera à remobiliser ses troupes, à faire abstraction de tous ses potentiels problèmes et voilà, d'imposer sa philosophie et son esprit dans le jeu pour aller chercher une victoire de plus et se sécuriser à leur 5e place.
Mmh. Ouais, tu vois Nice gagner?
Je les vois gagner quand même, mais pas de beaucoup. Un zéro, je pense, pas plus.
Ok. Moi, je vois le match nul. Reims a beaucoup de difficultés. Reims, c'est une équipe en dents de scie. Elle a du mal quand même à gagner, à conserver le score. En même temps, Nice, pareil, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est complètement en train de lâcher cette fin de saison, j'ai l'impression. Ouais, moi, j'irai un match nul, un partout entre les deux équipes. Et enfin, le dernier match, un match tout aussi excitant, parce que c'est aussi un match qui voit deux concurrents directs pour le maintien s'affronter, donc Montpellier contre Lorient. Donc Montpellier contre Lorient, Montpellier s'est imposé 3-0 au match aller à l'extérieur, donc à Lorient. Lorient qui est actuellement 16e du championnat, hein, donc barragiste, avec 26 points. Lorient qui a perdu son dernier match face à Brest 1-0. Défaite qui n'était pas forcément méritée, puisque Lorient a quand même fait un beau match, et de l'autre côté, on a quand même eu un grand, notamment Bizot, qui a fait un énorme match côté brestois, et puis un Del Castillo qui, voilà, pour célébrer sa nouvelle paternité, a marqué ce but en fin de match. De l'autre côté, Montpellier a fait une très bonne opération en battant Le Havre, qui est aussi un concurrent direct 2-0. Donc Montpellier est actuellement 13e avec 30 points, donc 4 points d'avance sur Lorient. En termes d'absence, retour de Cazerie côté montpelliérain, malgré après les absents habituels, enfin des incertains comme Chotard et Silla. Sinon, à part ça, aucun blessé habituel, on va dire. Et du côté lorientais, donc on a Benjamin Mendy qui sera incertain, Tosin qui est suspendu, et voilà, Silva et Talbi qui sont blessés. Alexis, un petit pronom?
Après, le retour de Hazri, je pense pas que ce soit vraiment. Ça change rien, en fait. C'est encore un autre de ces grands joueurs de Ligue 1, mais qui, oui, s'est perdu depuis quelques temps, malheureusement. Je l'aimais beaucoup et je le prenais toujours dans MPG avant. Ça, c'était avant. Oui, gros match pour le maintien. C'est un match à 6 points, comme on dit. Dans le jeu, je vois Lorient gagner. En tout cas, je vois Lorient s'imposer dans le jeu. Mais sur la feuille de match, je vois quand même le match nul parce que je vois quand même Montpellier égaliser ou arracher ou chercher des dernières onces d'énergie pour chercher ce dernier point ou ce point supplémentaire pour pas prendre le risque de voir Lorient revenir à leur hauteur. Et Lorient, on le sait, défensivement, c'est aussi assez compliqué quand même. D'un pire défense,
Pire défense de Ligue 1.
les gars, malgré les Mendy Bakayoko. Mais ouais, je vois le match nul. Encore une fois, pas un match folie niveau but, mais 1-1, quelque chose comme ça.
Ok. Ouais, moi je vois quand même Lorient gagner, parce que moi je trouve quand même que c'était une belle équipe qui jouait bien, et je trouve que le remplacement de Régis Hubris par Courvenec, alors peut-être que voilà, ça veut faire un électrochoc, mais cette victoire contre Brest, elle est pas forcément méritée, à voir ce que ça va donner, du coup, avec Courvenec, il y aura peut-être un effet. Mais on va dire que ouais, je vois Lorient gagner quand même face à ce Montpellier 2.
Et surtout, on a bien vu l'effet Gourvennec à Nantes.
Ouais, je te jure, gros effet, très gros effet. En plus, surtout, c'est vraiment, il arrive pour remplacer des coachs où tu te dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire, tu vois? Aristouille, il a rien fait de mieux que lui. Là, il remplace le Brice qui, voilà, qui gagne pas, mais qui proposait vraiment un beau jeu et qui se remettait sur les rails avec Bamba, notamment en attaque. Donc, bref. Alexis, je te remercie de m'avoir accompagné dans ce petit tête-à-tête pour parler de cette 28e journée du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de football. Encore une fois, n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble des plateformes, de mettre un petit like, abonnement, ça nous aide pour le référencement, que ce soit sur Spotify, Apple Music, ou encore Deezer. N'hésitez pas à venir parler avec nous sur notre compte Twitter, on essaie d'être très actif et de parler de tous les clubs de France. Dans tous les cas, encore une fois, un très bon week-end de Ligue 1. Et puis, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une journée un peu spéciale, parce que certaines équipes ne joueront pas. Mais voilà, une journée dont on parlera quand même, pour parler, bien sûr, du meilleur championnat d'Europe, du monde, et vous l'avez compris, de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.